Radio Kasi, grand témoin.
Il est artiste plasticien, le sculpteur Freddy Bienvenu Tima est aujourd'hui l'invité de grand témoin. Freddy, bienvenue Tima. Soyez le bienvenu.
Merci beaucoup. C'est la grand-mère.
Alors, Freddy Tima, vous avez plusieurs œuvres à votre actif, ainsi que plusieurs titres honorifiques. Oui. Nous allons en décortiquer quelques-uns. Et vous avez aussi participé à plusieurs expositions à travers le monde. Oui. On en parlera au cours de cette émission. Oui. Freddy, bienvenue Tima. Pour commencer, je vous invite à suivre ce portrait de vous, dressé par notre confrère Jeannot Matouak lors de votre dernière rencontre à Bruxelles.
Allez voir de près, on croirait qu'on a affaire à un seigneur de guerre qui ne connaît pas les rasoirs. Coiffé toujours d'un bonnet avec sa touffe de barbe, Freddy Tima, c'est un grand sourire, franc, chaleureux et engageant. Il croit ce qu'il fait et le fait avec détermination. C'est en 1989 qu'il a obtenu son diplôme de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, option sculpture monumentale. Après avoir signé plusieurs expositions collectives et individuelles, Freddy Tima remporte en 2001 la médaille d'argent aux Jeux de la Francophonie à Ottawa, au Canada, avec son œuvre intitulée « Victime malgré elle ». Aujourd'hui, sa sculpture vient d'être installée au cœur du quartier Matongé de Bruxelles, à l'angle de la chaussée des Wavres et de la rue Longue Vie, dans un espace public dans la commune d'Ixelles. Au-delà de l'espoir, c'est le titre de cette œuvre qui représente une mère tenant un enfant estropié. La sculpture est faite sur base des matériaux de récupération, composés essentiellement des duis et balles. Freddy Tima explore les bronzes, les métals, la terre et les ciments. Il rassemble également des objets de récupération, glanés ça et là, parfois dans la rue. L'écriture sculpturale de Freddy Tima témoigne d'une réalité des douleurs et des larmes. Ses œuvres racontent des histoires d'enfants, de femmes aux formes torturées, contorsionnées ou prostées.
Freddy Tima, apparemment le rasoir, vous ne connaissez pas.
Mais je me rappelle bien quand j'étais enfant, quand mon père m'avait coiffé, j'ai pleuré tout le temps. J'ai compris après que je voulais être naturel, vivre ma vie tranquille. La barbe, ça me va bien, donc je la laisse pousser.
Donc pour les auditeurs qui ne vous voient pas, vous avez des dreadlocks, c'est un peu comme Bob Marley.
Oui, mais écoute, c'est vrai que c'est ancien ça, c'est pas récent, hein. Bob Marley, vous avez bien, mais au moins c'est africain, c'est au moins dans nos cultures même. Donc refuser ça, c'est quand même une aberration quelquefois.
Alors nous allons exploiter quelques éléments du portrait de notre collègue Jeannot Matouak, que nous remercions en passant. En 1986, vous devenez diplômé d'État des Humanités Artistiques à l'Institut des Beaux-Arts de Kinshasa. Où avez-vous fait vos études primaires?
Primaire, je l'ai fait à l'école Alpin Matongé, c'est non loin de Vélé Saint-Terre. Donc j'ai fait 6 ans là-bas.
Ici à Kinshasa.
À Kinshasa même, oui. Donc je suis resté, donc j'ai fait 6 ans là-bas, j'ai eu mon certificat dans cette école, et une école qui date de l'année 54. Donc avoir les gens qui ont pu passer là, je crois que c'est une école que je respecte beaucoup parce que ça m'a formé aussi, quelque part.
Votre enfance, vous en parliez aussi en parlant de vos cheveux qui étaient ouais. difficilement rasables. Mm-hmm. Dans votre enfance, y a-t-il des signes qui présageaient que vous seriez l'artiste que vous êtes aujourd'hui?
Je crois que mon père, il est encore en vie d'aller peut-être témoigner. J'ai dessiné beaucoup. Et même dans les cahiers de communication, j'avais fait des esquisses une fois, mon père m'a tapé. Je me rappelle, je m'avais même pissé parce que j'étais tellement choqué de voir ce que je faisais, c'était tellement beau. Et je voulais montrer à mon père. Il m'a dit, il n'a pas vu le dessin. Il a vu le cahier de communication, mais il m'a donné une gifle. Il dit, mais papa, voilà ce que j'ai fait. J'étais en train de pisser. Mais le gars a dit, ça c'est pour que tu changes.
Il ne voulait pas.
Il ne voulait pas. Et après, j'essayais de transcender autre chose. Mais même les poules, une fois, dans le poulailler, j'ai dû quand même prendre quelques barbelés pour faire des œuvres. Et même les poulets d'ailleurs après. Donc, je n'étais pas contre.
Bon, ça c'est votre père et votre mère. Comment le voyait-elle?
Ma mère, elle m'a accepté parce que je suis gaucher. À l'époque, quand elle est gaucher,
c'était un défaut.
Un défaut. Et même mon père m'a attaché la main pour que j'écrive avec ma main droite. Mais ma mère, c'était elle qui disait, mon père, écoute, cet enfant, il souffre. Elle est déjà maigre, mince comme ça. La question est encore avec la main, donc quelque part, c'est le torturer. Et mon père a quand même pu me laisser cette liberté. Donc, gaucher déjà, différent des autres enfants. Et j'ai fait mon parcours.
Et il ne s'est pas opposé à votre choix d'aller à l'Académie des Beaux-Arts?
Non, parce que déjà, j'ai commencé déjà à faire des fils de fer à des amis. Et comme on était dans une famille de 15 enfants, Donc, quelque part, il fallait qu'on fasse des brouillards pour survivre.
Exactement.
Et moi, de mon côté, j'avais ces côtés-là. J'ai dit, bon, quand même, j'ai fait des vacances sur le secours de la vie. Et les parents des amis payaient. Bon, pas grand-chose, mais un petit rien qui me permettait d'avoir des habits, donc d'être en propre. Et mon père était quand même content de voir que je me débrouillais bien. Donc, est-ce qu'il va accepter?
À l'Institut des Beaux-Arts, quelle option vous faites là-bas?
Là, j'ai fait la sculpture. Mais quand je suis arrivé, vu que j'étais entré en quatrième année, donc c'était déjà compliqué, ils m'ont dit de faire autre chose, de faire la céramique. J'ai pleuré parce que je ne voulais pas être céramiste. Et deux jours après, je suis revenu à la sculpture, dehors. Et moi, c'était des femmes. C'est vrai, elle était têtue.
Chef d'entreprise, dirigeant des institutions publiques et privées, responsable de syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche à partir de 7h, heure de Kinshasa.
Il est artiste plasticien, le sculpteur Freddy Bienvenu Tsimba est aujourd'hui l'invité de Grand Témoin. En 1989, Freddy Tsimba, vous décrochez votre diplôme de graduat en art plastique, option sculpture monumentale à l'Académie des Beaux-Arts à Kinshasa. Expliquez-nous un peu cette option.
Écoute, quand on fait la sculpture, parce que quand on arrive là, il y a un choix à faire. Soit on abrase la peinture ou la décoiffe intérieure, ou soit la sculpture ou ce qui est aussi visuel, on peut dire. Il y avait la photographie autrefois, mais ça n'est plus en cours là. Quand on dit sculpture monumentale, c'est plus les œuvres qui doivent rester dehors. Et moi, j'ai beaucoup aimé parce que dans ce sens-là, ça me permettait de voir ma création en trois dimensions. Ça diffère un peu de la peinture qui est plus murale, on s'accroche quelque part. Mais la sculpture, c'est plus ce qui est vivant, ce qu'on peut voir et qui concurrence un peu, on peut dire, l'homme ou l'humain. Et moi, j'ai beaucoup aimé à faire ça.
Dans le portrait de notre confrère Jeannot Matouac, il disait que votre technique est basée sur la récupération composée essentiellement des douilles de balles. Pourquoi cette matière vous intéresse-t-elle?
La douille, c'est, pour moi, c'est une interpellation. Parce qu'une fois que j'ai regardé la télévision, je vois, c'est en Somalie, on balançait la nourriture. La nourriture, on balance à laver la viande, tu vois, après, les gens ont fait courir. Mais ces gens ont fait courir, c'est pour récupérer la nourriture. Donc, sinon, il y a un problème. Et quand j'ai vu les gens, ce que les types ont fait courir, j'ai dit, c'est dû à quoi? C'est à la guerre. Alors, si j'allais au fond, je dis, mais si c'est la guerre, il y a des douilles, donc ça circule partout. Moi, j'ai du mal à bouger pour aller faire mes œuvres. Mais pourquoi la douille peut arriver n'importe où, dans quel record du monde? Ça arrive, ça atterrit dans les noirs.
Sans passeport,
comme tu dis. Mais, j'ai dit, mais moi, ça m'a interpellé. J'ai dit, je récupère cet élément pour en faire des œuvres. Et j'ai commencé ça. Donc, c'était vraiment impensable déjà. Mais il fallait y arriver quand même.
C'est d'où il a voulu trouver facilement?
Ah, c'est pas facilement. Ça, on peut pas le dire, c'est pas facilement parce que la douille, déjà quand on la voit, ça fait déjà peur.
Ouais.
Déjà, en elle-même, c'est chargé. Et en récupérer, je l'ai récupéré. J'étais à la Soweto, j'ai récupéré des douilles là-bas. En Afrique du Sud, j'ai récupéré en France aussi. Donc, du coup, une fois récupéré, je fais des œuvres.
Le transport vous est facile ou vous faites les œuvres sur place?
Pas facile parce que même les œuvres, quand les œuvres réalisées, à l'aéroport, ils les passent même fois pour voir s'il n'y a pas des poudres
qui sont cachées.
Cachées. Déjà, avoir le look qu'on dit, tiens, c'est déjà
suspect.
D'emblée, sans pour autant qu'on voit les colis. Mais après, à qui nous peut dire au Congo, j'en ai quand même récupéré pour essayer de dire, tiens, nous n'en voulons pas des guerres. Donc, j'ai fait tout un travail par rapport à ça. Ça vaut pour moi-même, pour résister et pour ne pas que ça se fasse devant moi si je ferme les yeux. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment fait ce travail.
Donc, en fait, toutes vos œuvres, c'est avec des douilles.
J'en ai plein, mais la majorité des œuvres, c'est vraiment des douilles.
Freddy Tsimba, les jeunes qui terminent dans les écoles d'art et métiers ont beaucoup de mal à trouver un emploi. Je vous invite à suivre le témoignage de cet ancien étudiant de l'Académie des Beaux-Arts.
Oui, au fait, aux humanités, j'ai fait les Beaux-Arts, l'Institut des Beaux-Arts, et là, j'ai fait la céramique. Au niveau supérieur, je suis allé à l'Académie des Beaux-Arts, la décoration intérieure. Et par rapport à mon état actuel, je dirais que bon, je ne travaille presque pas. Pourquoi? Parce que on ne trouve pas assez de marchés. Pour trouver un marché, il faut avoir un nom, il faut être connu, tout ça. En sortant de l'Académie des Beaux-Arts, j'avais des ambitions, des projets. En fait, je me disais, après mes études, j'aurais un atelier à moi, pourquoi pas un bureau d'études où je serais tout seul. Pourquoi? Parce qu'avec nos mains, de quoi ils nous exploitent, ça dépend de quel maître, ça dépend de la bonté de ce soi-disant maître. Donc, je n'ai pas voulu travailler avec les maîtres, mais je sais que je suis là, je préfère évoluer seul. Et je pense bien que je finirai par trouver les moyens pour réaliser mes projets. Bon, dans la vie de Kinshasa, à ce que je sache, non. Ici, on n'a pas, d'après ce que moi, on n'a pas des ateliers de céramique industrielle. Il n'y en a pas. Donc, on fait des bruits en faisant des petites œuvres d'art.
C'était là un de vos anciens collègues de l'Académie de Beaux-Arts, Freddy Tsimba. Vous-même, avez-vous facilement trouvé de l'emploi?
J'ai peut dire que, contrairement à mon ami, moi j'ai fait le tour de tous ces ateliers. J'ai essayé de voir les grands qui étaient à l'époque, Binamao, Tamba, Ouma, j'ai essayé de sillonner, voir leur travail, les approcher quand même. Même si ce n'était pas facile, mais au moins faire le tour déjà, comprendre comment ça se passe sur le terrain, et aussi après, essayer de chercher soi-même sa voie. C'est pas facile parce que ce qu'on fait comme travail, c'est comme le nom qui est là. Aller travailler chez un maître, on peut dire, tu travailles pour le maître. De quelque part, tu peux faire 10 ans, 15 ans, comme ça, tu perds le temps. Non, c'est comme, bien si on a une ambition, on dit qu'on va faire quelque chose, et à la longue, arriver à s'affirmer, à s'accrocher pour évoluer. Par rapport aussi à l'ami, quand on dit la céramique, mais il faut bien soi-même commencer, parce que quand on commence quelque chose, qu'on le veuille ou pas, dans 10 ans, 15 ou, mettons, 6 ans, on peut arriver à des résultats et aussi proposer ses travaux aux autres. Mais quand on n'a rien sur place ou qu'on n'a rien à montrer, bon, les gens peuvent passer, ils disent, qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez rien du tout, donc du coup, la chance peut passer à côté aussi.
Vous avez décidé de travailler pour vous-même, mais est-ce que l'art ici au Congo nourrit-il son âme?
Bon, ça prend du temps, mais à la fin, si on persévère vraiment, on est têtu, ça nourrit. Ça, je voulais dire.
Vous avez également l'occasion de visiter plusieurs pays, mais est-ce que le Congolais, tenant compte des conditions sociales, achète-t-il des œuvres d'art?
Non, là, ça c'est triste parce que nous avons des millionnaires dans ce pays, des gens qui ont beaucoup de moyens, mais pour faire acheter des œuvres, on n'est pas contre ça, et c'est leur goût. Pour faire acheter des tableaux de tissus chinois qui coûtent 50 ou 10 dollars, que d'avoir une œuvre de nous, parce qu'ils n'ont pas encore cette culture. Ça, je crois qu'il faut que ça commence dès le bas âge. Commencer avec nos enfants, à les éduquer pour qu'ils apprennent que quand on investit sur une œuvre, c'est pour la vie qu'on investit. Oui, c'est vrai, on dit l'immobilier, c'est bien, mais les tableaux, combien de tableaux, mettons par exemple en Espagne, les Picasso, ça coûte combien? Un tableau, c'est plus que même un budget du Congo. Donc, faut vous dire qu'ils ont des budgets du Congo, mais rien que fait par un individu, un artiste espagnol. Ici, il y a des artistes qui sont là, qui ont beaucoup de moyens, qui sont reconnus partout, King Eleve, Thierry Samba, pour la série, tout cela. Mais ici, qui peut me dire qu'il a un tableau de
Thierry Samba?
Peut-être qu'ils sont deux ou trois, mais il y a combien de gens qui ont beaucoup de moyens ici? Ils sont là. On les appelle nouveaux riches, ils sont riches, mais il faut qu'ils démontrent par rapport à ce qu'ils ont. C'est bien d'avoir des dames et consorts, des intérêts sur 800 ou combien, mais ça passe, après il y a d'autres marques qui vont sortir. Mais les œuvres des artistes vont rester. Après, on va dire qu'on n'a rien eu, les œuvres sont parties à l'extérieur parce qu'ici, il n'y a pas un pouvoir d'achat. Ça, c'est triste aussi, je crois.
En 92, vous participez à une exposition collective intitulée Sport à l'Académie des Beaux-Arts ici à Kinshasa. Quel en était le message?
C'était déjà pour essayer de faire voir que le corps peut bien vivre tout en étant souple. Donc, on a essayé de faire une exposition avec des artistes à l'époque pour essayer de faire comprendre aux Congolais. C'est le sport, c'est pas la violence. Le sport, c'est vraiment un bien-être pour tout le monde. Ça se partage, c'est quelque chose qu'on doit donner aux autres aussi. Et c'est vraiment ça, ces messages.
En 94, une autre exposition collective à laquelle vous prenez part, intitulée cette fois « Solidarité sans frontières, aujourd'hui Rwanda ». Quel en était l'objectif?
C'était vraiment l'époque où le Rwanda commençait, c'était vraiment le grand massacre, le génocide, et l'inocide. Et nous, plasticiens, nous sommes dit, nous allons transcender les frontières pour être avec des amis rwandais, pour montrer que ça, c'est pas admissible. C'est tué pour la terre, on veut que ça soit une terre pour tout le monde. Donc on a fait une exposition, une grande exposition sur le terrain de terre, et c'était des œuvres des plasticiens qui ont été exposées. Et du coup, le but, c'est de vendre les œuvres, mais pour aussi, après, faire un petit cadeau pour envoyer au Rwanda. Mais malheureusement, il n'y a pas de acheteurs. C'était une belle exposition, mais les gens n'ont pas acheté. C'était triste. Le prix était très fort.
Ils se sont contentés de regarder.
De regarder, de dire c'est bien ce que vous faites, mais après.
Mais par de là, tout ça, le message était quand même fort. L'art transcende les frontières, peut solidariser avec l'autre.
C'est ce qu'on voulait. Et même, on avait dans le groupe pharmacien qui était là pour récolter l'argent pour faire au moins de médicaments et quand même un paquet pour essayer de l'envoyer. Bon, c'est quand même triste parce qu'on n'a pas pu arriver à ça. Mais déjà faire cette expo pour nous c'était déjà fort parce que ça montrait qu'on était derrière et qu'on était contre ce qui s'est passé de l'autre côté. Et ça, c'était fort déjà.
En 99, aux ateliers Boutembe, vous participez à une autre exposition collective portant le titre « L'art et la paix ». Comment l'art peut-il contribuer à la paix,
Simba? L'art, je dis, c'est la façon de vivre aussi. On vit comment? Si on veut vivre en paix, on peut vivre en paix. Et vivre en paix, nous disons, tout ce que nous faisons doit rester, doit vraiment humaniser. Donc, arriver à donner corps à la vie. Et la vie, c'est la paix, moi, je trouve. Donc, entre nous, nous sommes dit, déjà à l'époque, il y avait les guerres où les pays étaient clairement fondés. Et nous, la situation se disait, comment vivre à Kinshasa avec un grand mur au milieu, d'être côté, on sait ce qui se passait. Et nous venons transcender ce mur-là, à travers une exposition qui était vraiment forte à l'époque, où des Congolais, des politiciens sont venus. Ils ont vu les œuvres. Sûrement, ils ont vu qu'on était menés à ce que la paix revienne au pays.
Et que le pays soit réuni.
Je lui dis même réuni, si je veux dire.
Radio Capine, grand témoin.
Il est artiste plasticien, le sculpteur Freddy Bienvenu Timba est aujourd'hui l'invité de Grand Témoin. Freddy Timba, en 2002, au Palais du Peuple à Kinshasa, vous exposez l'œuvre intitulée Remember 11 septembre. Pourquoi?
Ah oui, parce qu'on avait vu comment ça s'est passé aux États-Unis. C'était quand même fort pour nous de voir comment les gens, même si on révèle des choses, doivent vraiment détruire la vie parce qu'ils veulent s'affirmer. Ça nous a touchés. Aux États-Unis, ça s'est fait, mais on était là, qui l'idée aussi, pour dire qu'on peut bien parler, discuter, mais pas toucher sur la vie quand la vie est sacrée. Donc là, c'est une façon pour essayer d'être solidaires, cette fois-ci à nos amis américains, loin à Kinshasa, au fond de nos ateliers, mais au moins, en faisant des œuvres par rapport à cela. On a fait des installations, c'était une grande exposition au sein du peuple, des installations, des œuvres, pour vraiment dire que nous voulons bien que la terre bouge, mais dans le bon sens. C'est un peu ça.
En 2003, c'est Impact, cette fois à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le message que vous passez est-il nécessairement adapté à chaque pays ou c'est une inspiration personnelle?
Non, c'est une inspiration personnelle. Par rapport à l'œuvre que je réalise, je m'adapte aussi quand il y a des nouvelles ou des choses qui se passent à travers la Terre. Moi, je le dis, je suis là et ça me touche toujours. Donc, à la fin, c'était plus par rapport à ce qui s'est passé. C'était la fin de l'apartheid, donc il fallait être là pour essayer de parler de ça aussi.
En 2007, vous prenez part à l'exposition internationale Congo en marche, botanique à Bruxelles. À quel moment pensez-vous que le Congo a-t-il commencé sa marche?
Ah, ça, je savais déjà, parce que par rapport à tout ce qui s'est passé, les gens qui étaient autour du Congo, on peut dire, étaient déterminés à ce que le Congo bouge. Alors, pour nous, Congolais, si on restait dehors, ou dehors de cette marche-là, on était mis de côté. Donc, déjà, être dans la marche, c'était pour nous fort. Donc, déjà, arriver à ce que les politiciens arrivent déjà à se réunir, à trouver des solutions, même s'ils avaient des différents, mais au moins arriver à comprendre que par-delà tout, c'est l'intérêt du peuple qui doit priver. Et nous, on était là derrière pour aussi montrer que nous, plasticiens, nous, créateurs, on est pour la vie et on croit à la vie beaucoup.
Toujours en 2007, c'est cette fois encore Congo Lelo Lobby. Entendez Congo d'aujourd'hui et de demain au centre Wallonie-Bruxelles à Paris. Quel message vouliez-vous transmettre?
Ah là, c'était vraiment pour dire que le Congo d'hier doit être renouvelé et doit transcender pour que le Congo de demain soit encore plus fort.
Il va y avoir une nette différence.
Oui, parce que, faut dormir sur le passé. Les gens pensent, je dis, les années 60 avec les flamands, c'était comme ça, on mangeait 7 fois par jour, tout ça. Mais c'est du passé. Maintenant, il faut transcender la nourriture, il faut aller au-delà. Il y a l'éducation, il y a des grands enjeux qui sont là, faut pas dormir sur le passé. Donc, c'est aussi pour montrer que ça, ça s'est passé. Maintenant, nous, on est là. C'est pour que ça bouge, pour qu'on aille de l'avant et que demain, le Congo soit vraiment fort et là. Parce qu'il y a des choses qui sont là et ne pas être à côté.
Il faut dire que les années que nous n'avons pas citées ici, hein, vous étiez toujours en train de travailler. Ça ne veut pas dire que parce qu'on ne les a pas citées, vous ne savez rien. Vous avez fait beaucoup de choses. Les titres honorifiques, parlons-en, vous en avez accumulé aussi beaucoup. En 2001, vous êtes médaillé d'argent aux Jeux de la Francophonie à Ottawa Hall. Qu'avez-vous fait pour le mériter?
Ah, ça, c'était une œuvre que j'ai présentée. C'était un grand concours. J'étais le Congolais le seul à y aller pour participer au jeu de la francophonie. Et là, j'ai mis une œuvre que j'appelais Victime avec elle. C'est aussi avec des bulles, une grosse bulle de cartouche et une cuillère. Et cette œuvre-là était une grande sculpture. C'était une petite sculpture qui faisait facilement 7 kilos. Parce que là, j'en fais des vêtements.
Seulement.
Parce que j'avais les 200 kilos. Donc...
Ah bon.
Et cette œuvre-là tirait la personne devant du jury. Et j'ai eu ce prix-là. J'ai vraiment été vraiment content parce que c'était pour moi la première fois que j'ai sorti du pays. Et c'était au Canada. Et c'était fort de revenir au pays avec une médaille, un diplôme pour le Congo. que malheureusement je n'ai jamais donné parce que personne n'est venu à la chanson.
Et personne ne s'y est intéressé.
Non, personne.
En 2002, vous obtenez la médaille du mérite des arts, sciences et lettres ici au pays. Bon, que recevez-vous en retour après toutes ces choses?
Juste là, je veux dire, on est mis en valeur, mais il n'y a rien qui suit.
Je l'ai des projets,
des papiers qu'on peut mieux décorer à la maison, mais rien ne suit derrière. On revient au pays, on me donne un animal. On est un anime.
Qu'est-ce que vous voyez?
Alors, on se pose des questions. Mais moi, j'ai ramené une médaille pour le Congo. Il y a le drapeau qui a flotté. Et nous demandons encore de ramener. C'est ça. Et alors, du coup, on se voit que vous n'avez rien ramené. Et ça, c'est triste. On n'arrive toujours pas à donner de la valeur à ces enfants qui font la fierté de ce pays. Il y en a plein, les sportifs. Les judokas, il y en a plein qui ont fait la
fierté de ce pays et qui ne sont pas reconnus.
Et ça, c'est triste.
En 2005, vous avez le prix des artistes au concours Artistes à tout vent au Centre culturel de Blavesy en France. C'est quoi concrètement?
C'était un prix que les artistes ont donné. Il y avait plus de 100 artistes réunis. Il fallait donner un grand prix à un artiste qui le méritait. Et c'était moi qui donnais ce prix-là. C'était fort parce que donné par les créateurs. Pas congolais, donc il y avait plein de gens, des Ukrainiens, Américains, Français, et de recevoir ces trucs, moi c'était vraiment fort, et ça m'a vraiment fait plaisir.
En 2007, vous avez obtenu le prix du meilleur artiste plasticien congolais, et en 2008, votre sculpture intitulée Au-delà de l'espoir vient d'être installée au cœur du quartier Matongé à Bruxelles, dans la commune d'Ixelles. Jeannot Matouak nous en parlait dans le portrait que nous avons suivi en début d'émission. Qu'est-ce que cela représente?
Mais ça, c'est pour dire que comme le Congo ne l'a encore pas honoré comme il le faut, si c'est les amis belges ou français d'ailleurs nous donnent ces valeurs, donc ça fait plus plaisir parce qu'on se dit, si on n'est pas encore reconnu au Congo,
au moins ailleurs
on est reconnu, et ça fait plaisir. Pas que moi, mais aussi par rapport à toute la famille des créateurs du Congo. Et ça, c'est vraiment fort parce que déjà, on passe à Ixelles, c'est l'œuvre qui devient l'emblème même de Ixelles de ce côté-là. Comme c'est vraiment le quartier africain, c'est-à-dire c'est vraiment une œuvre qui est forte et qui donne l'honneur à tout le monde. Donc,
à toute l'Afrique. Nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Nous avons contacté quelqu'un qui vous connaît. Je vous invite à suivre le témoignage que cette personne fait de vous.
Mon nom est Christine Simon, je suis en fait consultante en communication autour de l'efficacité de l'aide au développement. Donc c'est un petit peu loin de Freddy en ce qui concerne la matière, mais Freddy Timba, je le connais, en fait je l'ai rencontré à Paris quand j'habitais à Paris, il est d'ailleurs venu chez nous. À ce moment-là, et c'est vrai que c'était un petit peu la fleur qui s'ouvrait, si je puis dire, parce que bon, il en était au début, il en était à ses premiers déplacements à l'étranger, et à ses premières expositions, mais en commun avec d'autres personnes. Donc ça fait 6-7 ans que je connais Freddy, et alors c'était un vrai bonheur de le retrouver ici dans son pays. Parce que c'est vraiment quelqu'un humainement extrêmement attachant et comme artiste quelqu'un d'extrêmement prometteur et qui évolue à une vitesse incroyable.
Alors dites-nous madame, parmi les différentes œuvres de Freddy, lesquelles vous ont marqué et pourquoi?
Moi j'ai beaucoup apprécié les maternités, donc les ventres de femmes qui sont faites de douilles, parce que quelque part c'est un petit peu la fin de la guerre et la promesse d'avenir. Et donc c'est clair que ce sont une série de 9 maternités que j'ai beaucoup aimées.
Alors il est avec nous au studio, pouvez-vous lui adresser un petit message?
Non, c'est vraiment extrêmement perso. Freddy, il est temps qu'il vienne chercher ses acacias.
Merci madame Christine Simon et bonne journée.
Oui, au revoir.
Réaction félicite.
Alors, t'as vraiment chaud au cœur parce que, attends que Christine Benoît parlait de moi et à la fin d'aller chercher mes plantes, ça c'est encore fort. C'est fort et ça, je manque même de mots parce que je m'attendais pas que ça soit elle qui parle de moi et là, ça me touche vraiment.
Hey,
En 2008, vous avez pris part au festival Ricicard à Montpellier, au Québec et au Canada. De quoi s'agissait-il?
Là, c'est une grande exposition, on peut dire, où les Canadiens de Montpellier et du Québec invitent les artistes qui viennent exposer leurs œuvres sur place. Et des fois, soit on y va pour travailler, soit on envoie les œuvres, mais dans le thème de recycler. Donc, on trouve tout ce qu'on peut faire, mais que ce soit un travail vraiment humaniste, on peut dire. Qui s'attouche sur un point sensible de la vie qui se passe à travers la terre. Donc là, j'ai amené une sculpture qui est là, c'est-à-dire que les regards des autres, c'est un travail sur les déplacements des peuples. Donc les Africains qui pensent que vivre ailleurs, c'est mieux, comme dit Goubal. J'ai fait ce travail et l'œuvre a été vraiment appréciée. Là, j'ai eu des échos. Dire la mairie ou la ville d'Ottawa étant pour parler pour l'achat. Bon, moi, je voulais bien que ça revienne ici d'abord. C'est mon grand souhait. Mais on doit aussi travailler et ça coûte cher la vie d'artiste. Donc, mais pour moi, c'est fort parce que là, c'est quand même un travail qui est apprécié et j'aimerais bien que ça soit mis vraiment en valeur. Donc, peut-être la ville d'Ottawa serait aussi en valeur. Donc.
Pour terminer cette émission, quel message pouvez-vous adresser à tous les jeunes artistes qui vous suivent en ce moment?
Ah, je dirais aux amis artistes que c'est pas facile d'être artiste, il faut travailler beaucoup, chercher à être original, ne cherchez pas à copier. Copier, c'est bien, mais ça nourrit peut-être, mais ça n'est pas des personnalités. Donc, cherchons à être soi-même et vraiment transcender le temps, transcender les souffrances, les douleurs et aller de l'avant. L'art doit transcender, l'art c'est fort, l'art il n'y a pas d'égal. L'art, la création, c'est ce qui fait la terre même.
Félix Simba, merci d'être passé à Grand Témoin.
Merci Alain, merci beaucoup.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que nous recevions le sculpteur Freddy Bienvenu Timba. Merci à Mimi Kindou qui était à la réalisation et à la technique. À la présentation, Alain Hirung. Retrouvez cette émission sur le site de Radio Capi, soit www.radiocapi.net, où vous pouvez réécouter toutes les émissions de Grand Témoin. Merci à tous ceux qui nous suivent à Lissala dans la province de l'Équateur et partout dans le monde.